Vous êtes toujours sur Radio Soupente, enfin on l'espère pour vous. La station des rapins sans foi, sans loi et sans courbette. L'émission Araka qui va consacrer le temps qui lui reste à vous causer dans le poste d'un immense graveur dont nous avons côtoyé l'œuvre ce week-end dernier dans un petit bled du bord de mer qui s'appelle Gravelines. Dans Schnorr, voilà, c'est Nicolas Eichmann. Je vous assure que, d'abord, le lieu est assez peu ordinaire. Et l'exposition, il faut vraiment être costaud pour en faire le tour. À vous dire que ça ne finit jamais.
Ouais. Donc c'est un petit endroit, ça c'est, on va dire merci Claudine qui a vu cette exposition et qui nous en a parlé. Et donc Nicolas Eichmann, on avait déjà parlé de lui en juin 2018 à la Fondation Taylor, il y avait une exposition de ses œuvres peintes et on avait déjà été séduit par son travail, la qualité de son travail, son imaginaire, sa qualité aussi, sa technicité. Enfin, donc on lui avait consacré une émission. Et là, donc c'est une exposition qui s'appelle Nicolas Eichmann, humaniste et graveur fabuleux. Donc ce sont ses œuvres gravées et elles sont nombreuses. Alors, qui est ce Nicolas Eichmann? Alors, Nicolas Eichmann, c'est lui qui se définit ainsi dans une Eichmann raconte Eichmann. C'était un article du journal Candide en novembre 1965 d'un journal belge. Donc voilà comment il se définit. Je suis né en 1889 sur la place des Barricades, numéro 4 à Bruxelles, dans la maison et dans la chambre où Victor Hugo a écrit une partie de ses Misérables. Moi, je suis un de ces produits, un petit misérable. Je ne sais si cela a quelque chose à voir avec la peinture ou non, mais en tout cas, c'est un début assez amusant à constater. Ensuite, j'ai fait les études normales d'architecte et tout est parti de là, de cette fameuse place des Barricades. La guerre étant venue, j'ai dû fuir la Belgique. Je suis arrivé en Hollande et j'ai trouvé là mon petit coin de Neuhamen. Encore un petit coin historique. J'ai été reçu là par un ami qui était déjà un ami avant, le pasteur de Ligde, qui était dans le presbytère de Van Gogh. Il dit « Nick, tu es un peintre, tu dois venir dans le coin de Van Gogh. Viens vivre chez moi dans le presbytère. » J'ai vécu pendant 4 ans dans la maison de Van Gogh, dans la chambre de Van Gogh, et j'ai vécu avec ses modèles, avec les gens qu'il a connus. J'ai des histoires qui sont absolument inédites de ces modèles, de ces tisserands que je fréquentais, que je dessinais, avec lesquels je travaillais, qui venaient me raconter des histoires abracadabrantes sur lui. J'ai donc eu là un véritable coup de fouet formidable et naturellement, mon respect pour Van Gogh n'a fait que grandir. Personne ne le connaissait encore et j'ai vu chez ses paysans des tableaux de Van Gogh sur des panneaux de lit, sur leur lit. Ça a été vendu plus tard à des millions, mais j'ai connu tout ça. Bref, j'ai eu là un grand coup de collier à cause de l'ambiance, d'autant plus que cet homme, ce pasteur qui m'a reçu, était un homme très très érudit, très très noble en pensée, un très grand philosophe. C'est avec lui que j'ai compris 1000 choses. Il m'a initié à la musique de Bach, il avait un harmonium, j'ai commencé à jouer de l'orgue, j'ai joué dans les petites églises protestantes, des petits concerts de Bach, c'était réjouissant. J'ai vécu la vie avec des hommes simples, chez ces paysans en Brabant, avec l'ancienne amie de Van Gogh, j'ai vécu avec elle, enfin façon de parler, j'ai parlé avec elle. J'ai été chez elle, j'ai bu son café à la table où il a fait les mangeurs de pommes de terre. À cette même table, j'ai vu ces types-là, je les connais. Tout ça, c'est devenu pour moi une pâte maniable, une pâte formidable que je pouvais éplucher, manger, dont je pouvais me nourrir. C'était magnifique. Donc voilà, c'est le début de sa vie.
C'est quand même assez extraordinaire.
Ouais, c'est quand même Victor Hugo, Van Gogh, c'est quand même pas anodin, quoi.
Non, ça c'est le sommet du sommet.
Voilà, donc ensuite, Nicolas Eichmann va exposer à La Haye dès 1915. Il va même être acheté par des grands musées hollandais. Et en 1921, il s'installe à Paris. Et là, il fréquente les artistes de Montparnasse. Entre-temps, il a une première épouse qui habitait Neuhamen, en Hollande, et qu'il a épousée. Donc, il fréquente les artistes de Montparnasse, tous les mouvements artistiques. Il côtoie Signac, Mondrian, Mazerelle, Picasso, André Lhote, Marcoussin, Jean Lursa, Chagall, Kissling et bien d'autres. Il est membre des Indépendants et de la Société des Graveurs, cette société qu'on appelle aussi le Trait. Il expose donc régulièrement et il vend. Il expose aussi chez Jeanne Bucher et après la mort brutale de sa première femme en 1925, donc il va se retrouver seul avec une petite fille, il se marie avec la bibliothécaire de Jeanne Bucher et avec qui il aura une nouvelle petite fille qui s'appellera Luce, comme il dit, sa petite lumière, cette petite fille qui aujourd'hui a fait donation justement au musée de Gravelines de l'œuvre de son papa, quoi. Donc le cabinet des estampes de Bruxelles lui achète toute son œuvre gravée. Et au début de la Seconde Guerre mondiale, il est recherché par les nazis et il se réfugie à Saint-Jean-de-Luz. Là, il va signer ses œuvres ECMA. Et le maire, d'ailleurs, lui permettra d'exposer discrètement. En 1944, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles organise une exposition très importante, à laquelle même la reine Élisabeth de Belgique se rend. Dans les années 50 et 60, les expositions se suivent à un rythme plutôt régulier en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Et il est également sollicité pour son travail d'illustrateur, comme L'âne culotte d'Henri Bosco ou Till l'espiègle de Charles de Coster, Les contes d'un buveur de bière de Delain et voilà, d'autres contes. À Mons, de jeunes artistes se retrouvent autour de lui à chacune de ses visites. Donc c'est quelqu'un qui a un public. Il n'a jamais voulu s'engager par contrat, ni vendre au numéro, ni payer les critiques. De ce fait, il va être laissé en marge de la surenchère boursière de Paris. Les marchands s'efforcent de l'ignorer, ils préfèrent faire cavalier seul. Et donc, avec fierté, Ekman fait partie des vrais peintres maudits qui s'insurgent contre le modernisme officiel. Donc il va tout droit, hors de son temps et de la mode, il poursuit son idéal en solitaire, même quand ce sera la mode de l'abstraction, lui restera toujours un figuratif. Et il meurt en 1973, après une grande rétrospective à la galerie Reflet à Bruxelles, et il laisse environ 30 000 œuvres, et il est enterré au cimetière d'Ivry. Voilà, et donc après, c'est sous l'impulsion de sa fille que est créée l'association Le Sillon Nicolas Ekman, qui est créée en 89 et qui se consacre à perpétuer donc la mémoire et l'œuvre de son père. Donc il y a eu plusieurs expositions après, à l'atelier Grognard, à Reuilmans Maison, à Menton, à la fondation Taylor à Paris, à Amsterdam et à la mairie de Maine aux Pays-Bas.
Vous n'êtes pas allé à Grognard ?
C'est pas Nicolas Ekman qu'on avait fait. Donc voilà, ça c'est la vie de Nicolas Ekman, donc une vie riche et indépendante.
Non, mais ce qui est remarquable dans ce parcours, c'est que c'est un parcours de quelqu'un de farouchement indépendant, qui se conforme à aucune mode, aucun courant, et ça c'est quand même assez exceptionnel dans l'art.
Il était un fou du roi qui vivait l'âme sereine en un château d'autrefois pour l'amour d'une reine. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Il y eut une grande chasse où les nobles deux par deux, tous les 10 mètres s'embrassent en des chemins qu'on dit creux. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque le fou vit la reine, courtisé par un beau comte, il s'enfuit le cœur en peine, dans un bois pleuré de honte. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Lorsque 3 jours furent passés, il revint vers le château et alla tout raconter dans sa tour au roi là-haut. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus. Devant tout ce qu'on lui raconte, tout un jour le roi a ri, il fit décorer le conte. Et c'est le fou qu'on pendit. Et vive les bossus ma mère, et vive les pendus, et vive les bossus ma mère, et vive les pendus.
Le fou du roi, Jacques Brel. Et donc, on va raconter un petit peu tout ce qu'on a vu de cette œuvre gravée. Une exposition plutôt chronologique, avec beaucoup de gravures sur bois et quelques points sèches.
Oui, enfin, on va vous en raconter un petit peu, parce que si on veut raconter tout, on y est encore demain soir ou après-demain. Parce que s'il a fait 30 000 œuvres, comme ma camarade vient de vous le dire, ce qu'on a vu à Gravelines dans ce musée assez peu commun, c'est déjà énorme. C'est plusieurs centaines de gravures, je ne sais plus combien, enfin. Surtout donc de la taille d'épargne, mais aussi de la gravure sur cuivre, voilà, qui est absolument d'une technique magnifique. Voilà. Mais perso, vous le savez peut-être déjà, mais bon, je suis plus porté vers la taille d'épargne que vers la gravure, disons, plus classique. Voilà. Et là, on est vraiment gâté. Surtout que ces sujets sont des sujets qu'on privilégie dans cette émission, c'est-à-dire le monde du travail, le monde du labeur, les gens qui sont les gens d'en bas, comme disent les gens d'en haut, voilà. Les paysans, les ouvriers, les mineurs, etc. Avec un style très très personnel, on pourrait dire presque comme les... Un peu comme les... Oui, peut-être oser des choses un petit peu ridicules, mais un petit peu comme les sculptures des cathédrales, vous voyez, ces personnages un peu statiques, tout en longueur, souvent de profil, comme les dessins égyptiens ou les choses comme ça. Voilà, c'est très stylisé, mais avec une maîtrise technique absolument époustouflante, et surtout. C'est cette vie ouvrière, cette vie de tous les jours, des gens communs, comme disent ceux qui ne sont pas du commun.
Oui, toute cette vie agricole, justement, qu'il a côtoyée, tous ces paysans qu'il a côtoyés quand il était en Hollande.
Oui, avec ses heures, ses malheurs, c'est surtout beaucoup de malheurs, mais bon, avec des dessins, parce que autant la semaine dernière j'ai évoqué avec vous l'histoire d'une graveuse qui pour moi a essayé de toucher à quelque chose d'intouchable en gravure, une gravure un peu hors de ce qui se fait normalement en gravure, on pourrait dire de la gravure presque outsider ou quelque chose comme ça. Mais là, chez Nicolas Ekman, c'est une gravure pensée. J'ai vu des dessins, il y a des dessins préparatoires à ces gravures, mais ce sont des merveilles. C'est fait à la mine graphite, voilà. Et alors, c'est d'une précision, c'est d'une délicatesse, avec des ombrages, etc., avec des petits traits, machin. C'est quelque chose de complètement... vous avez l'impression d'être un espèce d'idiot là, en face de ces merveilles. Vous avez les doigts qui se raidissent, parce qu'ils sont un peu contrariés de ne pas pouvoir, si vous voulez, accéder à cette espèce de maîtrise du trait, à la maîtrise du sujet, mais surtout de l'outil. Voilà. Et à partir de ces dessins préparatoires, qui sont des œuvres à part entière déjà, il doit faire un report, il doit faire un calque, un report sur le bois, parce qu'il grave le bois, c'est pas de la vidéo.
D'ailleurs, il y a quelques planches gravées là, oui, c'est intéressant de voir.
Oui, absolument. Oui. On voit aussi ses outils, on voit, enfin, il y a tout un... Et il reporte ses dessins préparatoires sur la matrice, qui va ensuite graver, ancrer et imprimer. D'ailleurs, il y a dans ce musée, il y a plusieurs types de presse. Il y a une presse litho, Et il y a deux presses pour l'impression des stampes, soit sur cuivre, soit sur bois. Et voilà, c'est très... Avec ses outils, enfin bref. Mais le gros de cette espèce d'exposition monumentale, on peut dire ça, oui, monumentale, même si ce sont des gravures. Il y a aussi ce qui m'a frappé dans cette démonstration de l'œuvre, d'une partie de l'œuvre de Ekman, c'est des toutes petites vignettes. Il y a des grandes estampes gravées sur bois, il y a toute une série là qui sont magnifiques, mais il privilégie aussi le tout petit.
Oui, les vignettes, oui. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans son travail, en fait, les personnages sont comme coincés par le cadre. Ils ont
tout
souvent la
ouais.
tête courbée, comme ouais. s'ils étaient limités, justement,
ouais.
dans leur activité, dans leur vie, quoi.
Tout à fait, oui. Et puis, c'est des poses vraiment, voilà, c'est presque des gisants debout, quoi. Voilà, on pourrait dire ça comme ça, peut-être, un peu, voilà. Et alors, curieusement, souvent dans la gravure, le dessin, la peinture, la sculpture, il y a beaucoup de nus, des nus évidemment féminins. Mais là, curieusement, dans tout ce qu'on a vu de cette expo, pas de nus. Mais pas un nu. Voilà, il y a des fois un modèle qui a un sein qui est visible, ou des choses comme ça, mais. C'est vraiment très très pudique comme montre. Voilà, il montre pas les. C'est pas. Oui, c'est très pudique. Voilà. Mais ça n'enlève rien du tout à l'intérêt de son travail. Cette pudeur, au contraire, ça exalte un petit peu justement ce côté assez ascétique, assez rigoureux de la représentation qu'il fait des gens du commun.
Voilà. Oui, tout à fait. Il y a des récoltes de pommes de terre, il y a une femme au verger. Il y en a une que j'aime beaucoup, moi, c'est cet accordéoniste-là qui nous a fait penser à Permequeux, à Constant Permequeux. Je ne sais pas, cette gravure me plaît énormément. Il y a les danseurs en bas, il y a cet accordéoniste qui a la tête penchée, qui tire justement sur son accordéon, des pieds un peu larges, son pantalon.
Et surtout, toujours des mains qui sont assez énormes. Enfin, c'est plus des mains de paysans, de travailleurs. C'est pas du tout des mains... efféminés comme on pouvait faire au Quattrocento, où c'était les gens avaient toujours des mains qui étaient des espèces de choses plastiques extraordinaires. Là non, c'est la bonne grosse main de travailleur.
Ouais. Et donc il y a aussi cette danse macabre en 7 temps là de 1924. Donc c'est cette gravure
en taille d'épargne.
Donc il y a le joueur, des masques, un arbre de vie, la vanité, la sagesse, la vieillesse. Et là c'est pareil, il y a cette vitalité, cette souffrance aussi en même temps, parce qu'il y a cette dureté dans le regard des personnages, qui soient de face, de profil, avec toujours plein de détails dans le fond, qu'on n'a pas le temps d'ailleurs de tout regarder, il nous faudrait presque un quart d'heure par estampe pour pouvoir tout absorber, quoi.
Oui, ça, c'est aussi une des particularités de cet artiste, c'est que il y a le sujet principal, on voit en premier plan, et dans le fond, c'est-à-dire derrière ce premier plan, il y a tout un fourmillement de personnages, d'animaux, de formes, de décors, etc. etc. C'est assez... oui, c'est très, très fatigant à regarder si on veut comprendre ou essayer d'approfondir un petit peu le regard de ce qu'on a devant les yeux, évidemment. Eh bien, c'est très difficile de suivre, parce que en plus, je répète, là, je suis déjà un peu fatigué. C'est une exposition. C'est presque un marathon. Voilà. Vous arrivez là-dedans. Bon, nous, on fait déjà deux ou trois salles en enfilade. Puis on se dit, c'est fini, quoi. Donc on revient. Et le gardien de l'entrée, comment il s'appelle ?
Emmanuel.
Emmanuel, un personnage un peu comme assez aussi, comment on pourrait dire. Prolixe, enfin, il est un peu comme les
passionné. Gravures. Il était
passionné. Voilà. Et j'adore quand les gens, mais ça, on voit ça que dans les musées de province, évidemment, on peut voir ça au Louvre, à Orsay, ou voilà. Et il nous voit revenir, il me dit, mais il avait l'air un peu étonné qu'on l'ait fait si vite. Enfin, pour lui, ça devait être vite. Et il nous dit, mais vous avez fait... Ah ben non, il y en a encore trois salles en bas.
Il y avait... Ouais.
Alors, on se repaye le même parcours, mais à l'étage en dessous. Et là aussi, avec des estampes de Chagall, des choses... Enfin, ouais. Mais vraiment, c'est quelque chose... C'est une sorte de magie, parce que déjà le lieu, ce sont des espèces de cryptes dans... Je ne sais pas ce que c'était.
C'était une ancienne poudrière.
Une ancienne poudrière, oui. Alors, tout est sous terre, plus ou moins, quoi. Voilà. Et donc, on a dû se faire aussi ce sous-sol.